Frédéric Lasserre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur chez CM Finance. On va parler avec vous des marchés de matières premières, notamment pétrolières. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actualités au cours des dernières semaines, avec notamment la rencontre de Doha, où on pourrait dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose, peut-être contrairement à certaines attentes. Où en est justement l'OPEP sur cette régulation, entre guillemets, du marché pétrolier ?
Ben écoutez, je crois aujourd'hui qu'on peut dire que l'OPEP a définitivement perdu la main sur la régulation du marché pétrolier, et ce, à l'initiative de l'Arabie Saoudite, qui clairement aujourd'hui fait cavalier seul, a son propre agenda en termes stratégiques. On l'a vu, le jeune prince héritier a annoncé récemment un projet très ambitieux à l'horizon 2030 de diversification, qu'il souhaite que l'Arabie Saoudite ne soit plus dépendante exclusivement des recettes pétrolières. Et ce à quoi on a assisté à Doha, c'est la manifestation, c'est peut-être le premier signe patent de cette volonté, avec les Saoudiens qui mettaient comme condition à leur adhésion à un plan de gel de la production, et non pas de réduction de la production, la participation effective de l'Iran, ce qui est inacceptable pour l'Iran, qui sort de 4 années d'embargo et qui ne peut pas accepter d'elle-même de prolonger implicitement cet embargo par un gel de sa production.
Donc c'est plus effectivement une confirmation finalement de ce que certains anticipaient, à savoir qu'il y a aujourd'hui des intérêts contradictoires pour les producteurs pétroliers et qu'on ne peut pas les résoudre et que ça passera pas par une hausse de prix.
Alors, ça passera peut-être par une hausse de prix parce que le paradoxe à l'issue de cette réunion, et d'ailleurs le marché a plutôt bien réagi au non-accord, c'est-à-dire à la non-décision de geler la production. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le rééquilibrage du marché, il passe par une réduction de production que la baisse des prix ou les prix au niveau actuel se charge en réalité de mettre en place au-delà d'accords de partenariat autour d'un gel, voire d'une réduction un jour de production. Donc paradoxalement, cette décision des Saoudiens de mettre une condition inacceptable et donc d'empêcher l'aboutissement de l'accord joue plutôt en faveur d'une réduction et d'un rééquilibrage du marché. Aujourd'hui, tout le monde voit ce rééquilibrage pour la fin de l'année, donc maintenant c'est une question de 6 à 9 mois maximum. Et donc ensuite, ça ouvrira peut-être la porte à une reprise des cours, dans le sens où ça fait la troisième année maintenant que nous assistons à une réduction très significative des CAPEX. Or, 3 années de suite de réduction des CAPEX à 2 chiffres en pourcentage, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'industrie pétrolière moderne. Et donc le jour où, si la demande frémit un peu, on va se retrouver dans l'incapacité d'avoir les capacités de production qui n'auront pas été investies dans les 3 années dans lesquelles nous sortons pour faire face à cette demande.
Alors, il y a eu aussi, bien sûr, au cours des dernières années, tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec le gaz de schiste. Est-ce que aussi, on est en train de se positionner en se disant que cet effet gaz de schiste ne sera pas, bien sûr, illimité et que du coup, on se positionne aussi sur le fait que cette demande ou cette offre surabondante ne pourra pas tenir longtemps ?
Alors effectivement, la particularité des gaz et pétrole de schiste en l'occurrence, c'est effectivement que c'est une technologie de production qui est très sensible au prix, à la baisse comme à la hausse. Autrement dit, dès qu'ils arrêtent d'investir, la production baisse assez rapidement dans les mois qui suivent, et c'est bien ce à quoi nous assistons aujourd'hui. À l'inverse, si les prix remontaient trop vite, ils seraient capables de relancer cette production également dans un délai de quelques mois et non pas d'années. Mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit que les CAPEX baissent non seulement chez les E&P américaines produisant du pétrole de schiste, mais également dans les majors et super-majors au niveau du pétrole dit conventionnel, donc l'offshore profond, les sables canadiens, du onshore classique. Or, c'est cette capacité-là de production, ce sont ces investissements-là qui pourraient venir à manquer dans les 3 à 4 années qui viennent, dès lors que la demande continuera à progresser, même à un rythme normal.
De votre point de vue, donc aujourd'hui, finalement, on arrive à une stabilisation, alors qu'il y a encore quelques mois, certaines banques d'affaires envisageaient le pétrole à 20 dollars. Ça semble peu probable aujourd'hui. On est plutôt sur une stabilisation.
Alors aujourd'hui, sauf accident de demande, baisse de la croissance, une absence d'hiver l'hiver prochain, c'est toujours possible. Mais si on prolonge les tendances actuelles, le marché semble effectivement pricer l'idée que nous avons vu les plus bas, qu'à 26 dollars, nous avons certainement testé les plus bas et qu'aujourd'hui, encore une fois, d'un point de vue physique, le rééquilibrage est en cours. L'excédent était de plus de 2 millions de barils jour en début d'année. On n'est plus qu'à 1,5 million. On va tomber à 1 million cet été et on sera sans doute encore une fois à l'équilibre dernier trimestre, premier trimestre 2017. Donc la trajectoire de prix devrait accompagner ce rééquilibrage. Mais encore une fois, l'idée des Saoudiens, c'était d'éviter une remontée trop rapide et trop brutale des cours pour ne pas redonner de l'oxygène à leurs concurrents directs. Aujourd'hui, les pétroles de schiste américains, demain, le pétrole conventionnel des grandes majors.
Alors, pour en face de cette situation sur le marché pétrolier, il y a bien sûr la croissance économique mondiale. Et là, c'est vrai qu'il y a pas mal de doutes toujours en ce moment. Alors, même si certains disent qu'en Chine, ça va mieux, il y a potentiellement des risques aux États-Unis. Alors qu'on n'est même pas, on a commencé une hausse de taux, mais qu'il y a des questions sur la croissance économique américaine. En Europe, ça va un peu mieux, mais c'est très très lent. Donc, on n'a pas une conjoncture économique non plus, en tout cas aujourd'hui, très favorable.
Non, c'est vrai. Mais cela dit, la croissance ne baisse pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la croissance mondiale, même sans regarder les zones individuellement, on reste sur un rythme de 3%, bon an mal an, ce qui est le rythme moyen des 4-5 dernières années. Or, à ce rythme-là, la croissance de la demande de pétrole nécessitait à peu près de la moitié. Donc, on a 1,4-1,5% de croissance. Donc, on a un gros million de barils le jour, 1,2-1,3 million de barils le jour, de plus de demandes incrémentales chaque année. Or, aujourd'hui, encore une fois, la production, elle est en train de baisser. Elle baisse aux États-Unis, mais elle commence à baisser également dans d'autres zones du monde. La mer du Nord commence à baisser lentement, mais sûrement. Le Brésil, l'offshore brésilien, commence également à baisser. Donc, encore une fois, tous les ans, il va falloir trouver ce million et demi. Donc aujourd'hui, c'est l'excédent de production qui y fait face. Demain, donc dans un an, deux ans, trois ans, ce sera des capacités nouvelles qu'il faudra amener sur le marché pour y faire face. Si on ne les a pas parce que les investissements n'ont pas été consentis maintenant, trois ans avant, seul le prix pourra encore une fois de nouveau stimuler la demande, l'offre, pardon.
Oui, quand on parle parfois d'inflation, voilà, y a un vrai sujet, y a un vrai sujet à inflation à venir potentiel.
Il y a un vrai sujet, nous avons bénéficié de l'effet déflationniste de l'effondrement des cours, au point qu'au début on s'est réjoui de la baisse des cours de pétrole par l'idée d'une redistribution de pouvoir d'achat aux pays consommateurs. On a peu vu les effets en dehors des États-Unis d'ailleurs. Aujourd'hui, effectivement, si on part de l'idée qu'on a vu les points bas, maintenant c'est plutôt un effet inflationniste, ce que sans doute les banques centrales salueront, puisque c'est vers ça qu'elles tendent et qu'elles essaient de viser en termes de politique monétaire.
Mot de la fin, vous avez peut-être vu comme moi cette information d'un ancien patron de BP qui dit que finalement les réserves de pétrole dont on nous parle depuis des années, soi-disant prouvées, il y en a la moitié qui n'existe pas. Ça risque pas à un moment donné de faire peur?
Je sais pas, je suis toujours un peu prudent face à ces déclarations parce qu'on a eu des déclarations à peu près opposées mais de même nature il y a quelques années en disant qu'il y en avait plus que ce qu'on pensait. Et puis ensuite le peak oil, c'était il y en a plus autant qu'on pensait. Et puis le pétrole de schiste a montré qu'on découvrait de nouveaux types de réserves et qu'on savait les exploiter. Et au début on disait oui mais on peut les exploiter qu'à 100 dollars, donc elles n'existent qu'à 100 dollars, elles disparaîtraient à 50 dollars. La réalité a montré qu'aujourd'hui on peut produire du schiste, pétrole de schiste à 50 dollars. Donc je prends plutôt ces déclarations avec une certaine prudence. Je pense quand même qu'en termes de réserve, il y en aura plutôt plus que ce qu'on pensait que moins.
Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous, Frédéric Lasserre.
Merci.